coq chanter le jour paraît, tout se debout dans les villages.
Le coq chante. Sayouba Traoré.
Monsieur, le départ d'autre train, si vous attention à la fermeture des portes, attention au départ.
Aujourd'hui, nous allons voir un exemple d'agriculture de précision avec un dispositif de suivi continu de la température du fourrage averti à une petite trentaine de kilomètres de la ville d'Angoulême en Charente. Angoulême est la préfecture du département de la Charente en région Nouvelle-Aquitaine. Pour ceux qui suivent l'actualité culturelle, c'est la ville du festival Musique Métis et du festival de la bande dessinée. Pour ce qui nous concerne, la Charente fait partie des 12 départements de la Nouvelle-Aquitaine, qui est la première région agricole de France et même d'Europe.
Ah, mais c'est le cognac qui
fonctionne. Après 2 heures de TGV, il faut poursuivre en voiture, ce qui nous laisse le temps pour vous parler du concept d'agriculture de précision. Pour dire les choses simplement, il s'agit de mettre à profit les outils qu'offre le progrès technologique comme l'imagerie satellitaire et l'informatique pour optimiser les investissements et les rendements agricoles. Cette agriculture de précision a influencé le travail du sol, les semis, la fertilisation, l'irrigation, la pulvérisation des pesticides, etc. Et c'est le cas pour le suivi des températures de stock de foin que nous allons voir aujourd'hui.
L'avantage d'une petite voiture.
Voilà.
Avertis, nous sommes attendus à l'usine du Repère, une entreprise négociant un fourrage spécial à Luzerne. Ici, il est surtout question de valorisation et de traçabilité du fourrage. La question est importante, car chaque année, plus d'une centaine de feux de ferme sont dénombrés en France, avec de graves dommages économiques qui peuvent s'élever jusqu'à 400 000 euros par feu, soit plus de 260 millions de francs CFA par incendie. On ne le sait pas automatiquement, mais pour tout stock de fourrage, le danger d'échauffement est présent. Et c'est cette montée de température que conduit au feu de ferme. Il n'y a aucune magie à cela, encore moins des intentions criminelles, car il s'agit d'un phénomène tout à fait naturel que nous décrit Anthony Hushwald, responsable du pôle fourrage chez Arvalis, Institut du Végétal.
Alors c'est l'Institut du Végétal. Donc voilà, on s'occupe principalement des cultures que l'on retrouve en France. Donc on va avoir toutes les céréales à paille, le blé, l'orge notamment, mais également le maïs, que ce soit le maïs grain, aussi le maïs fourrage pour l'alimentation des ruminants, et puis les espèces prairiales. C'est mon métier autour des graminées, des légumineuses prairiales que l'on retrouve, mais on a aussi des cultures comme la pomme de terre et le lin fibre, mais également le tabac.
Je vais essayer de comprendre, c'est-à-dire qu'il y a des végétaux qu'on cultive pour la consommation courante, les résidus c'est du fourrage. Il y a des végétaux qu'on cultive pour faire du fourrage, par exemple le maïs fourrage ou la luzerne.
Oui, exactement. Oui, beaucoup d'espèces sont cultivées avec un but spécifique de produire du fourrage pour alimenter les animaux en période hivernale, donc avec des fourrages stockés sous différentes formes, de l'ensilage, de l'enrubanage, du foin, mais aussi produits pour être pâturés par les animaux.
Ah, c'est-à-dire que pâturés, on peut les laisser y aller, mais en hiver, ici, il fait très froid, il y a la neige partout, les animaux sont à l'abri, et là, il faut les alimenter avec du foin.
Bon, alors, il y a la problématique du froid, bon, c'est une chose, la végétation n'a plus beaucoup de croissance. La neige, ça concerne que quelques zones en France. Ce qui nous pose particulièrement souci, voilà, c'est la quantité de fourrage qu'il y a à pâturer, et puis surtout des problèmes de portance des sols. En fait, des sols humides dans lesquels les animaux font des dégâts et du coup pénalisent le potentiel de rendement pour la suite.
Ah oui, donc si on laisse les animaux y aller quand le sol est détrempé, et ça ne va pas du point de vue agronomique.
Non, absolument. Il y a des problèmes de tassement du sol et puis on compromet la pérennité du couvert qui est en place.
Alors maintenant, il y a un problème, c'est-à-dire stocker du fourrage, ça peut générer des incendies de fourrage, des incendies de ferme. Avant de vous entendre, j'avais franchement du mal à comprendre qu'un tas de foin peut prendre feu. Qu'est-ce qui peut provoquer ce genre d'incendie ?
Je vais commencer par être un petit peu rassurant. Il y a aussi des formes qui ne posent aucune difficulté, en tout cas d'un point de vue incendie. C'est le cas de l'ensilage ou de l'enrubanage qui occupe une bonne part des fourrages stockés.
L'ensilage, c'est ce qu'on voit là ?
Non, ce qu'on voit ici, c'est des balles enrubanées. Donc en fait, simplement, c'est le même procédé que pour faire du foin hein, en termes d'équipement. Mais autour de la balle, on applique un film plastique qui va maintenir un milieu anaérobie, donc sans oxygène. Et puis on est sur un fourrage qui est beaucoup plus humide que sur du foin. Donc on a une fermentation. Mais l'absence d'oxygène, en fait, va faire qu'on n'a pas d'échauffement. Le cas de l'échauffement, il a lieu quand on est sur un foin, donc dans une balle ou une botte, dans laquelle on a une densité de fourrage qui est trop importante au regard de la teneur en matière sèche. En
fait, c'est-à-dire que par exemple, quand je fais ma botte, si je serre trop fort...
Serrer trop fort, c'est pas gênant si le foin est extrêmement sec. Si vous êtes à plus de 90% de matière sèche, vous ne risquez strictement rien, même à avoir des densités extrêmement élevées, c'est-à-dire très faible part d'air dans la balle. Mais le problème vient essentiellement du fait que c'est très délicat pour un éleveur en conditions classiques d'aller juger une teneur en matière sèche dite suffisante pour empêcher l'échauffement.
Parce que à l'œil nu, ça se voit pas.
L'expertise aide, il y a la sensibilité, voilà, il y a le toucher qui permet, il y a l'œil, certaines appréciations un petit peu des habitudes que l'on prend, mais ça permet pas de connaître en tout point de la parcelle la teneur en matière sèche du fourrage. Et donc potentiellement on prend un risque, voilà, d'être à une teneur en matière sèche insuffisante, mais pour différentes raisons, hein, parce qu'on ne sait pas ou parce que délibérément on a dû intervenir dans des conditions trop humides parce que la météo n'a pas été ce qu'elle était prévue ou le matériel n'était pas disponible au bon moment.
Tout à l'heure, vous avez dit que quand, c'est pas parce que j'ai coupé une plante qu'elle est morte, immédiatement, elle continue à vivre, et il y a des micro-organismes là-dedans.
Oui, alors en fait, ce qui se passe, c'est que quand on coupe une plante, on ne la tue pas directement. Hein, ses cellules continuent à avoir une certaine activité, donc il y a les enzymes qui travaillent.
Elle continue à respirer.
Elle continue à faire un petit peu de respiration, mais également dans les premiers temps après l'avoir fauché, elle peut aussi continuer à faire un peu de photosynthèse. Donc en fait, elle est vraiment quasiment active comme si on ne l'avait pas coupée. Bon, très rapidement, les activités enzymatiques respiratoires cessent, diminuent du moins en intensité. Et puis, il y a aussi toute une communauté, ce qu'on appelle la flore épiphyte. Je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais en fait, des micro-organismes qui sont naturellement présents sur le fourrage. Et il y a des bons et des mauvais. Et on va parler des mauvais particulièrement. C'est ceux, les levures et les moisissures, qui, en fait, quand elles vont se retrouver dans un milieu encore un petit peu humide, avec un peu d'oxygène, vont consommer, en fait, la matière organique soluble de la plante et générer une part d'énergie thermique et qui va ensuite générer l'échauffement qu'on est capable de qualifier, nous, avec des sondes, par exemple.
Et donc, on a ça, et ce que vous appelez le triangle thermique, c'est-à-dire que j'ai de la matière sèche, et j'ai de la chaleur, et s'il y a un coup d'oxygène là-dedans...
Oui, alors on va repartir du début. En fait, voilà, ce qui peut susciter l'échauffement, c'est encore l'activité des cellules de la plante qui sont vivantes, plus celle des micro-organismes qui sont sur la plante. S'il y a une activité, elles vont générer un échauffement. Et cet échauffement, il est dû à, comme on l'a dit, une teneur en matière sèche insuffisante, une densité élevée. Et puis, il faut qu'il y ait de la matière organique facilement digestible. Quand je dis facilement digestible, c'est des protéines, voilà, tout le monde voit ce que c'est. Et également des sucres solubles, et puis certaines fibres végétales qui sont facilement digestibles. Et ça, ces micro-organismes et les enzymes de la plante sont capables de s'en servir de carburant dans un milieu humide, donc elles peuvent se développer. La température petit à petit s'élève et puis on sait qu'au-delà de 80 à 90 degrés, très localement, le fourrage peut s'assécher. Et si l'oxygène arrive de manière assez massive dans un tas, ça peut déclencher un incendie.
Quelles sont les conséquences de ces incendies-là? Parce qu'on parle comme ça du point de vue anecdotique, mais pour l'éleveur, c'est une catastrophe.
Oui, on va dire que l'occurrence, c'est-à-dire le nombre de fois où ça peut arriver, il est relativement faible par rapport au nombre de fermes. Par contre, bien sûr, quand on en est victime, le préjudice, il peut être énorme, il peut être de 100% des stocks fourragés, il peut aussi engager des animaux, enfin, voilà, il peut y avoir effectivement des conséquences dramatiques, mais on va retenir aussi du positif. C'est pas du positif, c'est, on ne va pas systématiquement jusqu'à l'incendie. Il y a des sortes de paliers intermédiaires, des échauffements en dessous de 40 degrés, on estime que c'est sans préjudice ou sans préjudice perceptible aussi sur la qualité du fourrage. On est loin du risque d'incendie. Ensuite, entre 40 et 60 degrés, là, bien souvent, on va avoir un foin qui va être poussiéreux, il y a un petit échauffement, on a perdu de 10 à 15% de la valeur énergétique, de la quantité de fourrage qu'on avait initialement dans la balle, et puis également de la digestibilité des protéines. Et puis si on va encore plus loin, si on fait du 60 à 80 degrés, à peu près dans la température maxi atteinte, là, on a une incidence qui est beaucoup plus importante, une dévaluation assez forte, entre 15 et un tiers de la valeur énergétique et jusque moitié de la valeur protéique. Donc là, en termes de valorisation, l'animal ne valorisera pas bien le fourrage ingéré, alors que l'éleveur s'est donné la peine de produire ce fourrage.
Ce que vous avez appelé avec un sigle UEL et UFL, j'ai bien noté.
Oui, c'est bien ça. C'est ce qui nous permet, en fait, c'est des indicateurs qui nous permettent de juger de la qualité d'un fourrage. C'est une unité, en fait, que l'on utilise. Alors, l'UFL, en fait, c'est unité fourragère lait, ce qui est une notion de valeur énergétique. C'est relié à la kilojoule, hein, qu'on peut nous, ou calories qu'on utilise pour l'alimentation humaine. C'est ce qu'on utilise en alimentation des ruminants. Et puis, l'UEL, c'est une unité d'encombrement. En fait, c'est la capacité, c'est la place que prend un kilo de fourrage lorsqu'on le donne à l'animal. L'animal, il a un estomac, il s'appelle le rumen, c'est un volume restreint. Et donc, plus ses besoins vont être importants, et plus il va falloir que chaque kilo de fourrage que l'on apporte amène des éléments nutritifs. Donc, on a besoin d'avoir des fourrages qui sont riches pour répondre aux exigences nutritionnelles des animaux.
Ce que vous êtes en train de me dire, c'est que je peux regarder mon fourrage, il n'y a pas eu d'incendie, je suis content. Mais du point de vue nutritif, l'animal est moins satisfait, en tout cas ne peut pas assimiler ça facilement, ce que vous appelez digestibilité.
Oui, digestibilité, c'est à quel point en fait la matière organique disparaît, hein, à quel point elle est digérée par l'animal lorsqu'il l'ingère. Je vous donne un exemple, si c'est digestible à 70%, ça veut dire que vous donnez 1 kg de matière sèche à l'animal, et puis il va en digérer 70%. Et voilà, il y en a 30 qui sont partiellement digestibles ou pas digestibles du tout, et du coup l'animal n'en fait rien, et le reste est valorisé sous forme produit de l'énergie dont l'animal se sert.
Ça peut produire du lait, soit de la viande, soit en tout cas quelque chose.
Exactement, voilà. Oui, pour de la croissance, pour de la production de viande ou pour de la production laitière, il y a certains besoins que l'on connaît très bien pour qualifier et pour alimenter les animaux. Donc on s'en sert. Là, un fourrage qui aurait subi un échauffement, alors bien souvent l'éleveur dispose d'indicateurs un petit peu visuels ou olfactifs. C'est-à-dire un fourrage qui a passé les 40 degrés, il est poussiéreux. Là, l'éleveur s'en rend très rapidement compte. Si la température est allée au-delà des 50-60 degrés, on a ce qu'on appelle la réaction de Maillard, enfin même ça commence au-delà de 40 degrés. En fait, c'est des protéines qui se lient à la fibre, et c'est caractéristique, ça prend une couleur, une teinte plutôt marron, tabac, brun, caramel. Et c'est ce qu'on observe sur la croûte du pain qui brunit. Et ça, on sait que c'est synonyme de baisse de digestibilité des protéines. Donc ça fait plein de petits indicateurs comme ça, l'odeur, la couleur. L'éleveur peut s'y repérer, mais il est trop tard. C'est-à-dire le préjudice, il est comme ça. Et il sait très bien que ce fourrage-là n'aura pas la valeur escomptée. Et donc peut-être qu'il devra la distribuer à des animaux qui sont moins exigeants, qui peuvent valoriser des fourrages plus pauvres, entre guillemets.
Auparavant, avant qu'on utilise les nouvelles technologies, il y avait ce qu'on appelait les aiguilles à température, ou je ne sais pas quoi, les sondes qu'on vient piquer dans une boîte pour voir.
Oui, alors elles existent toujours, hein. Elles sont utilisées pour, il y a d'autres usages aussi, hein, dans des tas de grains qui peuvent éventuellement s'échauffer pour les mêmes raisons, parce qu'ils ont été récoltés trop humides. Donc c'est des sondes, il faut s'imaginer une tige avec une cellule qui capte la température à son extrémité, et puis à l'autre extrémité on a un cadran qui affiche la température. Mais là l'éleveur, il y a une contrainte un petit peu logistique quand même, c'est que l'éleveur est contraint d'enfoncer la sonde dans le tas de fourrage, dans le tas de foin ou autre.
Dans la première meule qu'il voit, mais au milieu il peut pas.
Alors, la première meule, disons qu'il peut en faire tout le tour, mais peut-être que le tas doit être dimensionné lorsqu'on a affaire à ces outils-là. Donc effectivement, ça ne permet pas d'aller beaucoup plus loin que 2 mètres dans la masse de fourrage. Donc peut-être qu'on passe à côté d'un échauffement qui est loin dans le fourrage que l'on vient d'empiler.
Alors aujourd'hui, il y a les nouvelles technologies et on est venu voir un nouveau type de sonde.
Oui, donc là, je ne pense pas que ce soit vraiment un mois dans...
D'en parler.
Oui, d'en parler. Disons que le principe a été présenté et il lève une contrainte importante. Enfin, il permet une chose, c'est le suivi en continu de la température. Donc potentiellement, toute balle située dans un tas, on peut en suivre la température. Et puis les dispositifs d'alerte permettent d'envoyer une alerte à l'éleveur lorsque ça dépasse une température critique. La température critique pouvant être celle à partir duquel il y a un risque important d'incendie. Mais l'enregistrement de la température, c'est aussi connaître potentiellement le préjudice que l'on a connu, mais ça n'empêche pas l'échauffement qu'il peut y avoir. Ça permet simplement d'en avoir connaissance.
Je vous remercie.
Merci à vous.
Maintenant que nous connaissons le problème, la phase agriculture de précision. Si on sait que l'échauffement peut conduire à des feux de ferme, il n'existe aucun moyen permettant de suivre les variations de température du fourrage. Et c'est là qu'interviennent Nadine Pessonen et sa société Canturie. Nadine Pessonen est ingénieure et également sœur, fille et petite-fille d'agriculteurs. En 2001, le hangar de son frère brûle à cause de l'autocombustion. Ce sera l'élément déclencheur pour la recherche technique d'une solution. La suite, c'est elle-même qui nous la raconte.
Eh bien bonjour, je suis Nadine Pessonen, je suis la dirigeante de la société Quanturi qui développe le système HETEC et qui est un système pour faire un suivi du fourrage, donc les foins principalement.
Alors HETEC, c'est ce qui est H-A-Y, HETEC.
Oui, c'est ça. En fait, hay, ça veut dire le foin en anglais. Donc, c'est la technologie du foin. Donc, quand on parle d'un incendie de fourrage, c'est vrai que c'est très, très conséquent parce qu'une botte de foin, dès qu'elle s'allume, bah, toute la ferme brûle. Alors, ça peut être uniquement le stock de fourrage, mais ça peut être également toute la ferme, tous les bâtiments qui sont autour. Ça peut être la salle de traite, mais ça peut, dans le pire des cas, même être la maison d'habitation qui est attenante à la ferme.
Je vais essayer de comprendre. C'est-à-dire que, voilà, j'ai mon troupeau. J'ai fait mon foin, j'ai des bottes que j'ai stockées. Et il y a des phénomènes qui peuvent enflammer ce foin-là.
Oui, ça s'appelle le phénomène de fermentation. Donc si vous avez fait du foin qui est un tout petit peu trop humide au moment de le botteler, vous allez avoir une réaction chimique qui va se passer. Et donc la température va augmenter, il va y avoir une réaction chimique qui va produire des gaz. Donc vous allez avoir une température qui augmente, des gaz. Et si malheureusement vous avez un petit courant d'air, le triangle de la chimie se ferme et donc de suite vous avez ce qu'on appelle une autocombustion. Donc, c'est-à-dire que l'incendie se déclare par lui-même.
Je vais essayer de voir, c'est-à-dire que voilà, je viens de faucher mon fourrage, la plante n'est pas totalement morte, c'est pas parce que je l'ai coupée, donc elle continue à vivre.
Oui, c'est ça. Donc maintenant, il faut simplement s'assurer que le taux d'humidité de la plante il soit inférieur à 13% pour ne pas avoir ce phénomène de fermentation. Alors, mais c'est pas facile en fait parce que ça dépend de la météo, ça dépend des plantes. Et puis, si vous avez par exemple du foin qui a été fait en bordure de forêt, par exemple, il n'a pas eu le temps de sécher tout autant que du foin qui a été bien exposé.
Dans votre cas, vous avez dit qu'il y a eu un incendie dans la ferme familiale chez vous.
Oui, mes parents étaient agriculteurs, mes grands-parents, mon frère est agriculteur. Et il a perdu sa ferme en 2001 à cause justement du problème de fermentation du foin, ou d'échauffement du foin.
Et vous, ingénieur, vous êtes dit, il faut que je trouve quelque chose.
Je me suis dit, ça fait 40 ans que les agriculteurs utilisent un thermomètre manuel et à l'heure de tous ces capteurs sans fil, je me suis dit qu'il fallait vraiment qu'on révolutionne un petit peu tout ça et puis dépoussiérer tout ça et puis créer un système.
Ah donc, le système que vous avez inventé, c'est toujours un capteur de température, mais je le dispose au moment où je stocke mon foin. C'est pas seulement venir l'enfoncer pour voir un coup.
Voilà, c'est ça, il est sans fil. Donc le capteur, il va mesurer par lui-même la température du foin toutes les heures, donc au milieu de la nuit, dans l'après-midi, enfin toutes les heures, et puis envoyer sa donnée sur votre téléphone portable. Donc vous allez pouvoir suivre depuis chez vous ou tout en faisant d'autres travaux, donc la température de votre stock de fourrage.
Je vais essayer de voir le dispositif. Je fais une première couche de boîte de foin, je mets des sondes. Une deuxième couche, je mets des sondes. Donc tout au long de ma meule, de ma grange, il y a des sondes comme ça. Et chacune envoie des informations sur la position où elle est.
Voilà, c'est ça. Et donc vous pouvez vous retrouver avec vraiment un grand nombre de sondes. Donc le système peut mesurer, enfin peut écouter jusqu'à 500 sondes.
500 sondes?
Oui, 500 sondes, voilà.
C'est donc ça. À tout moment, s'il n'y a pas de problème, ça ne bouge pas. S'il y a un problème, ça me dit sur mon portable, attention, danger.
Oui, et vous recevez des alarmes sous forme de SMS.
Et là, il faut aller voir.
Et là, il faut aller voir et il faut agir. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez voir également donc, les courbes en température, donc toute l'historique. Donc vous pouvez déjà voir si la température augmente ou non. Donc vous pouvez déjà en fait faire de la prévention avant l'action.
Donc il y a une température au-delà de laquelle, là c'est danger.
Oui, au-dessus de 70 degrés, c'est vrai qu'il faut, enlever la botte de foin de la meule.
Alors vous avez inventé ce système, mais aujourd'hui il faut le commercialiser. C'est pour ça que vous avez créé une société Quanturi.
On le commercialise depuis l'année dernière, depuis 2017. Et puis à l'heure actuelle, on a déjà 3000 sondes déployées dans 5 pays d'Europe.
Ah oui, donc ça marche.
Donc ça marche, oui. L'année dernière, on a évité déjà une dizaine de feux.
Et nous sommes là aujourd'hui pour voir une société qui utilise votre sonde.
Oui, nous sommes dans une société d'Urpair qui, eux, utilisent 500 sondes et qui sondent automatiquement toutes les bottes de foin.
On va aller voir ?
On va aller voir.
Je vous remercie.
Ben, merci beaucoup.
Il faut savoir dépasser l'émerveillement devant une prouesse technique. De plus en plus dans le monde, on encourage les éleveurs à abandonner l'élevage transhumant pour garder les animaux à la ferme, ce qui suppose de stocker de l'alimentation bétail, principalement du fourrage, dans les pays en voie de développement. Il se trouve que dans des pays comme le Sahel africain, on a naturellement des températures pouvant dépasser les 40 degrés. Ajoutons à cette constante climatique les phénomènes de fermentation et d'échauffement du fourrage et on comprend que le problème est sérieux. À présent, l'entreprise du Repère qui nous reçoit dans ses ateliers, c'est aujourd'hui le plus grand utilisateur des sondes Canturi. Un partenariat que nous explique Christophe Collas, responsable d'usine chez du Repère.
Donc la société du Repère, c'est une entreprise qui emploie 25 salariés et qui traite 60 000 tonnes de végétaux par an.
Alors, végétaux, ça veut dire que vous faites du fourrage, des litières pour les éleveurs, enfin beaucoup de choses.
Alors oui, effectivement, on produit des litières pour les éleveurs de volailles et de chevaux. On fait de la luzerne en bottes et en granulés pour les fabricants d'aliments. On fait aussi des granulés de bois et de sarments de vigne et de biomasse pour les chaufferies industrielles.
Alors là, vous avez un projet foin. C'est quoi ce projet foin ?
Alors on a monté un séchoir à luzerne en 2017. De manière à rajouter une carte un petit peu à notre activité et pouvoir vendre de la luzerne déshydratée haute qualité à nos clients éleveurs.
Je précise que la luzerne, c'est une herbe qui est cultivée pour servir de fourrage.
Oui, effectivement, c'est une culture à part entière, donc qui est gérée comme toutes les autres plantes et qui est suivie.
Alors, le problème, c'est qu'il faut stocker cette luzerne. Et garder ses qualités nutritives pour les animaux et éviter les départs d'incendie.
Là oui, effectivement, le stockage est une phase importante dans le processus. C'est pour ça que nous nous sommes équipés de sondes qui permettent de mesurer la température des balles de fourrage stockées toutes les heures et donc à la fin de pouvoir déterminer la qualité du produit en fonction de la courbe de conservation.
Avant de parler de ces sondes, et comment vous faites le séchage parce que j'ai regardé tout à l'heure, on m'a dit qu'il y a un séchage au champ et un séchage artificiel. Alors comment vous faites ?
Donc la luzerne est fauchée au champ, ça naturellement, normalement, est laissée au champ pendant un jour ou deux, endainée.
C'est quoi endainée ?
Endainée, donc, c'est le fait de regrouper les andains et de mettre la partie qui est humide dessus, de manière à faire sécher de manière homogène le fourrage avant l'entrée à l'usine de déshydratation.
Ah, c'est-à-dire que quand on l'étale, le séchage, que ce soit par l'air, que ce soit par le soleil, là au sec, c'est homogène.
Alors plus on est étalé, plus on est homogène, effectivement. Et à la fin, nous, on souhaite garder une couleur verte. On endaine de manière à garder la couleur et éviter le changement de couleur de la luzerne qui est en contact avec le soleil.
Donc il y a ce premier séchage, l'endainage, puis après vous amenez ça ici.
Exactement, on amène ça ici et après donc on le déshydrate dans notre usine.
Et comment vous déshydratez ça ?
Donc on a un séchoir à tapis, en fait deux tapis.
Ah, celui qu'on entend là ?
C'est ça. Et qui est alimenté en eau chaude par une chaudière à paille. Et donc on alimente deux échangeurs et on a des ventilateurs qui tirent l'air froid à travers les échangeurs pour le chauffer et donc qui l'injectent dans le séchoir.
Bon, maintenant il faut stocker ces balles-là.
Donc après, les balles sont effectivement stockées et équipées de sondes pour mesurer la température et suivre la conservation et la qualité.
Comment vous avez entendu parler de ces sondes ?
Sur un salon, on avait vu une publicité avec un tract. Et donc on a pris contact avec la personne et on a fait des essais. Ça nous a convenu, donc on a continué à développer avec la personne.
Ah, donc vous avez fait une première commande, vous avez essayé un certain temps, parce que bon, l'agriculteur c'est comme ça, hein. Vous avez essayé pour voir si ça marchait.
Donc on a essayé donc une première année avec une cinquantaine de sondes et aujourd'hui on a 500 sondes qui sont en place.
Et donc ça va ?
Et ça va très bien.
Je vous remercie. Difficile de quitter les lieux sans une visite des installations. dans le même temps pour une unité qui a initié un projet innovant et utilisant des sondes prototypes, il y a nécessité de secrets industriels à sauvegarder. C'est donc sur la pointe des pieds que nous suivons Christophe Colas.
On va dans les bureaux. Vous êtes sûr que vous allez en avoir ma taille?
Bon, ben, je vous en ai deux.
Bon, essayons. Oui, on commence où? C'est énorme ici. Ça va, j'étais loin d'imaginer tout ça.
Ouais. Donc le bâtiment rouge, c'est le bâtiment où il y a la chaudière. Le bâtiment vert, c'est le bâtiment où il y a le sécheur. Donc on va aller voir la chaudière si vous voulez.
Oh, je vais, on vous suit. C'est vous la puissance invitante.
Donc le concept, nous, c'est de brûler des bottes de paille pour chauffer de l'eau et donc alimenter un sécheur avec un sécheur basse température.
Ces bottes-là qui arrivent, là?
C'est destiné à la chaudière. Sauce.
Voilà.
Donc, en fait, il y a un système de pont roulant qui prend les bottes sur la remorque et qui les amène sur un tapis de démêlage.
Oui.
Et qui, après, alimente la chaudière en paille démêlée.
On va pas rentrer, mais on peut jeter un œil.
Donc là, l'usine arrive et est stockée sur une plateforme. Et donc, qui après est poussé avec un engin dans le tapis d'alimentation du sécheur. Donc, c'est un sécheur de tapis, basse température. Donc, on a un premier passage qui se fait sur le tapis supérieur. On revient par le tapis inférieur. Et après, on alimente une presse à balles qui fait des balles d'un format de 80 de haut, 1m10 de large et longueur entre 80 et 2 mètres.
C'est les bottes là qu'on voit là?
Oui, c'est les balles là, oui.
Donc ça, c'est le produit fini.
Oui, ça, c'est les balles de luzerne donc, qui vont être stockées après dans un bâtiment à côté et suivies avec les sondes de température pendant 4-5 semaines.
Mais le stockage, quand même, vous pouvez nous montrer?
Tout à l'heure.
D'accord.
On n'en a pas beaucoup, là.
Ah oui.
Donc voilà les sondes.
Ah oui, les infos, ça vient à l'ordinateur ici.
Donc les informations des sondes sont sur l'ordinateur.
Vous pouvez me montrer ou bien c'est... Là aussi, il y a un gros secret.
Donc là, on a les 500 sondes qui sont...
Chacune a un numéro.
Chacune a un numéro. Et donc chacune a sa courbe de température et permet donc d'être suivie pendant la durée nécessaire à notre besoin.
Mais la courbe qu'on voit là à l'écran, ça correspond à quelle sonde?
C'est la sonde numéro 4.
Ah, donc il faut sélectionner la sonde.
Voilà, il faut sélectionner la sonde et après on a la courbe de température de la sonde.
Bon, là tout est en vert, là ça veut dire que ça va?
Tout va bien.
Vous voulez dire que la visite est finie?
Là, la visite est finie, oui.
Merci, au revoir.
Au revoir.
Je vous attends dehors.
D'accord.
Nous étions à l'usine de séchage et de valorisation du foin du repère à Verdi en Charente, dans la région Nouvelle-Aquitaine. Cette société utilise 500 sondes Canturie pour le suivi des températures et la qualité du foin de luzerne. Une expérience réussie d'agriculture de précision. Il y avait aujourd'hui à la réalisation Eva Moschinski, au micro Sayouba Traoré. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver cette émission sur le site www.rfi.fr. Pour ceux qui veulent nous écrire, lecoqchante@rfi.fr. Et vous pouvez également consulter notre page Facebook, Le Coq Chante. Avant de se quitter, toujours ce petit rappel, vous voulez écouter Radio France Internationale sur votre téléphone mobile, c'est très simple. Il vous suffit de télécharger l'application RFI Pure Radio. Vous faites votre choix parmi les 14 langues et vous vous laissez guider.